Je reprends l'histoire de l'Église. Après vous avoir souhaité une bonne année 2013, qui, espérons-le, sera favorable à la dite Église. Et je parlerai aujourd'hui de la fin du paganisme. On ne peut qu'être frappé par la rapidité de l'évolution de l'Empire romain au IVe siècle. En 300, Dioclétien régnait avec des persécutions remarquables. Ce n'est que depuis 7 ans que l'empereur avait décidé de répartir son pouvoir en 4, 2 Augustes et 2 Césars. Cela afin de mieux protéger les frontières. Les persécutions antichrétiennes étaient au maximum. En 400, Rome n'était même plus capitale de l'Occident. On oscillait entre Milan et Ravenne. Rome fut prise par Alaric en 410. Peu à peu, elle n'était plus qu'une ville de province vivant de ses souvenirs. Sa seule dignité, mais une dignité qui devait traverser les siècles, était d'être le siège de l'épiscopat de Saint-Pierre à qui notre Seigneur avait confié les clés de l'Église. Dioclétien ne l'avait pas prévu. L'Empire était une mosaïque de plus en plus fragile de 2 ou 3 subdivisions. Le dernier sursaut du paganisme fut mené par Julien l'Apostat. Certains auteurs précisent qu'il n'était pas vraiment apostat car il n'a jamais été chrétien que de façade, mais ce n'est là qu'un détail. Julien l'Apostat avait pour les chrétiens qu'il appelait galiléens un mépris profond. Ils sont la lèpre de la société humaine, un ramassis de maniaques et de fous furieux. Il les tournait en ridicule, ce qui le fit faire apprécier au plus haut point par Voltaire, qui regrettait qu'il n'ait pas régné pendant 40 ans et anéanti le christianisme. C'était à l'époque ce qu'on appelait le siècle des Lumières. Plutôt que vers Rome, Julien l'Apostat se tournait vers la Grèce et sa littérature, en particulier Homère, à qui il vouait un véritable culte. Le dieu qu'il affectait en priorité était le soleil. Il voulut aborder les mathématiques et l'astrologie, puis sombra dans la théurgie et ses opérations de magie, destinées à s'assurer la bienveillance des divinités. Cela dit, il avait le théâtre en horreur, pratiquait l'austérité et la sobriété. Sa grande préoccupation était la lutte contre les chrétiens, dans le but de rendre son lustre au paganisme. Il se vantait de n'être jamais donné d'indigestion. Saint Grégoire de Nazianze répondit qu'il aurait préféré quelques indigestions à bien des actes de sa vie. Julien interdit aux chrétiens d'enseigner la littérature et tenta de mettre sur pied quelques œuvres de bienfaisance pour faire pièce aux chrétiens. On croirait le gouvernement actuel. Il tenta de provoquer la division en libérant les catholiques qui avaient été exilés par l'empereur Constance et qui, pour hostilité à l'arianisme. Il profitait aussi d'incidents pour décider de quelques menus martyrs, condamnant par exemple un évêque à être enduit de miel et exposé plusieurs jours aux piqûres des insectes. Il restaura plusieurs temples païens et tenta même de restaurer le temple de Jérusalem, opération interrompue par un tremblement de terre. Son règne ne dura que 2 ans, 361-363, mais il est resté une grande figure pour tous les ennemis du christianisme, en particulier du catholicisme. Les années qui suivirent Julien l'Apostat virent le déclin et la quasi-disparition du paganisme, du moins dans sa forme officielle, car le dit paganisme a subsisté et subsiste encore dans bien des superstitions actuelles. Ne parlons pas des cartomanciens, ne prenons en exemple que l'agitation des marchands de hasard et des diseurs de bonne aventure chaque vendredi 13. Aux États-Unis, il n'y a pas de 13e étage dans les hôtels. Bon, alors cette évasion du paganisme se fit pratiquement sans persécution, sauf envers les magiciens. Les temples fermaient peu à peu, faute de pèlerins. L'empereur Théodose, qui régna de 379 à 393, fit acte d'autorité en fermant le temple de Sérapis en Égypte. Il y a mis des moines, au grand scandale des païens. Il supprima les combats de gladiateurs et les Jeux olympiques en 396. Il fallut attendre 15 siècles pour que les 10 Jeux olympiques ressuscitent avec le baron de Coubertin. En tant que détenteur du pouvoir, Théodose mit la main sur les trésors des temples païens. Il est difficile aux Césars de toute nature de rater une telle occasion. Cela s'est constaté tout au long des siècles, tout au long de l'histoire. Les princes protestants lors de la guerre de 30 ans, la République en 1793 puis en 1905, le fameux milliard des congrégations. Les nazis, les soviétiques et maintenant les salafistes mettent la main sur le trésor de l'Église en disant que c'est enfin une justice. Il faut quand même rappeler qu'il existait de fort honnêtes gens parmi les païens. L'abbé Huvelin cite un certain Simnac qui écrivit une page émouvante à propos d'un autel à la Victoire, gardienne de l'Empire, que l'empereur Gratien fit enlever. Si nous repoussons la Victoire comme divinité, nous devons ne pas en exiler le nom. Qui voudrait ne plus avoir cette statue avec son vieil ornement ? Sénateur, c'est avec elle que nous avons voté. Et si on nous enlève cette statue, à qui irons-nous offrir nos serments ? Si nous n'avons plus l'autel à la Victoire, comment trouverons-nous la raison des choses ? Et plus loin, le budget des prêtres et des vestales est confisqué. Triste économie que d'économiser sur les choses sacrées. Cette élégie du paganisme est très émouvante. Prudence, évêque ami de Saint-Ambroise, répondit « Rome a été préparée à quelque chose de plus grand que la Victoire, à recevoir le christianisme. Voilà pourquoi elle est devenue si grande. Le Christ allait venir et Dieu préparait ses voies. Certes, mais ce ne fut pas facile à admettre à un païen qui revoit sa patrie naguère maîtresse du monde s'effriter puis s'effondrer sous le coup des barbares. Il fallut attendre au moins 5 ou 6 siècles pour voir Rome de nouveau luire d'une puissance d'autorité. On ne saurait tenir rigueur à des empereurs chrétiens d'avoir pris des mesures favorisant leur culte, mais à la longue, cela peut poser des problèmes délicats. Il est tout à l'honneur du christianisme d'avoir séparé les domaines des responsabilités de Dieu et de César, car dans les autres religions, le roi et le grand prêtre ne sont souvent qu'une personne. Le prophète Samuel était très réticent quand le peuple d'Israël lui a demandé un roi. Confucius tenait à ce que les deux pouvoirs soient le plus proches possible, et on sait l'altitude de l'islam sur ce point. En déclarant que César et Dieu avaient leur domaine propre, notre Seigneur a posé un principe de base qui prescrit aux autorités religieuses de ne pas se mêler de choses importantes mais terrestres, comme les impôts ou la diplomatie, à condition toutefois de se rappeler qu'il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Cette clause importante peut entraîner de sérieuses difficultés, comme nous le constatons aujourd'hui, avec l'avortement, l'euthanasie et l'homosexualité. L'immixtion autoritaire de César dans la querelle de l'arianisme a montré la possibilité de tels dangers, d'autant plus sournois que des dignitaires ecclésiastiques peuvent avoir la tentation de se ranger du côté de l'empereur pour consolider son pouvoir à tous les niveaux. La limite est parfois ténue. Avec le césaropapisme, qui sera une des causes du schisme entre l'Orient, où Constantinople restait le siège d'un empereur puissant, et Rome, qui dut attendre Charlemagne pour devenir à nouveau capitale d'un petit État dont l'indépendance était, si l'on peut dire, garantie par la proximité de puissances rivales, l'Empire, la France et l'Espagne. La question du domaine propre à César a été longuement débattue, elle l'est encore. Aucune difficulté en ce qui concerne le droit positif, comme celui de décider à quelle date débute l'année ou à quelle heure commence le jour, le changement d'heure en été, ou s'il faut rouler à droite ou à gauche. Dans le domaine financier, l'Église rappelle la nécessité de respecter la dignité de l'homme, d'assurer à chacun une vie digne et honnête, même si la question du juste prix et du juste salaire ne sont pas des questions faciles à juger. Cela peut commencer à déraper dans les questions de l'enseignement et de l'éducation. Il est normal que l'État interdise les écoles où on enseigne le vol ou le crime. Mais est-il légitime pour César de faciliter une religion plutôt qu'une autre et par quels moyens ? Certains empereurs romains interdisaient aux chrétiens d'enseigner, comme Julien l'Apostat. Mais doit-on légaliser sur les viandes servies dans les cantines ou, plus gravement, dit-on, imposer le politiquement correct, plus gravement, doit-on imposer le politiquement correct dans l'enseignement des écoles ? Question tout à fait actuelle. On touche ici à la très difficile question de la liberté de conscience, sur laquelle le père Basile du Barou a fait un véritable travail de bénédictin en une 20aine de volumes. C'est l'amour qui doit gouverner, il faut se garder d'éteindre la mèche qui fume encore. Saint Augustin a dit qu'il fallait laisser à nos ennemis le temps de se racheter. D'autres disaient qu'il faut laisser à livrer le temps de pousser. Une vertu est nécessaire et elle est bien peu à l'honneur, c'est la prudence, avec le nom du Saint-Esprit correspondant le conseil. Il n'y a plus ni prudence ni conseil actuellement. Pour respecter la légitime loi de Dieu, il faut de l'humilité. Ce n'est pas la qualité dominante des princes qui nous gouvernent, même quand ils se proclament démocratiques. Pendant que le paganisme s'effondrait, le IVe siècle vit une explosion de pères et de docteurs de l'Église, personnalités éminentes dont on peut citer pêle-mêle quelques étoiles. Grégoire de Nazianze, qui n'est pas né chrétien, il ne fut baptisé qu'à 35 ans, peu avant son père, qui ne fut baptisé qu'à l'orée de sa vieillesse, juste avant d'être nommé évêque. La mère de Saint Grégoire était chrétienne, ce qui a fait écrire à son fils l'état de mariage à sa beauté, sa dignité. S'il n'engage pas directement à Dieu comme le sacerdoce, c'est une des voies les plus sûres. On peut être uniquement au Christ en étant marié. Le mariage chrétien est ennobli par l'amour dont Dieu est le principe. Ce serait à rappeler actuellement. Saint Grégoire s'élevait contre l'amour des richesses et fondait la grandeur d'un caractère sur le mépris des choses qui passent. Lui qui était porté vers la contemplation, vers l'état de moine, a été poussé à la prêtrise malgré lui. Saint Basile, au contraire, était d'une famille chrétienne de longue date. Sa mère avait assisté au martyre de ses parents. Orpheline et très belle, donc très exposée, elle se réfugia dans le mariage et eut 10 enfants. La sœur de Saint Basile menait une vie très ascétique. Saint Basile fut l'ami de Grégoire de Nazianze. C'était un orateur remarquable. Il fut nommé évêque de Césarée, diocèse de l'Arménie, qui englobait la moitié de l'Asie mineure. Au cours d'une grande famille, il sut ouvrir le cœur des riches, il savait regrouper les hommes, allant chercher aussi bien les juifs, les hérétiques et les païens, ne voyant en eux que des frères. Il croyait à la puissance de la volonté. Il avait fait ses études de médecine et connaissait l'influence du corps sur l'âme, influence du corps sur l'âme qui devient plus pesante avec l'âge. Le feu du corps embrase la jeunesse, mais sa pesanteur engourdit la vieillesse et peut engendrer la tristesse qu'il comparait à de la rouille. Mais de toutes les passions, c'est l'avarice qu'il rejetait avec le plus de rigueur. Il défendait la divinité du Saint-Esprit, pendant qu'Athanase défendait celle du Fils. On lui doit la définition du dogme de la Trinité, une seule nature, une seule substance et 3 personnes. Saint Jérôme était, si l'on peut dire, le plus directeur des pères de l'Église. Il a voulu avoir le dernier mot avec son corps, et dans ce but, l'a brisé avec des jeûnes prolongés et des flagellations volontaires. Il eut, dit l'abbé Juvenin, quand son corps fut brisé, il arriva à ses fins. Il entreprit l'étude de l'hébreu qui, disait-il, lui écorchait la bouche. À la fin de sa vie, il se retira à Bethléem pour entreprendre la traduction en latin de l'Ancien Testament, œuvre gigantesque qu'il mena au bout à l'exception des psaumes. C'est ce que l'on appelle la Vulgate qui fait encore autorité. Pour saint Jérôme, le chemin de la sainteté passait par l'austérité la plus rigoureuse. Il conseillait d'aller dans les maisons où la douleur habite plutôt que dans celles où règne la joie. Quand les matrones vous prieront de venir chez elles et que vous acceptez, elles auront toujours un peu moins d'estime pour vous. Il voit le monde comme un être où il y a péché. Par sa rigidité, il était la terreur des faux dévots et parfois la mélancolie des vrais, car les évangélistes, en particulier saint Jean, n'ont de cesse pour rappeler qu'ils apportent la joie dans ce monde. Saint Jérôme était un dithyrambe de la virginité. Il n'a pas vu la grandeur du mariage dans le don des époux et l'éducation des enfants. Le mariage a été longtemps vu comme un pis-aller pour lui, notamment par les jansénistes, jusqu'à l'éloge brûlant qu'en fit Jean-Paul II et son successeur, qui n'ont pas craint de canoniser des hommes, c'est-à-dire des humains, qui se mariaient sans être veufs. Il existe des saints comme Jérôme sont nécessaires pour rappeler que l'essentiel de notre existence n'est pas une réussite terrestre au sens laïque du terme, mais bien l'accomplissement de la volonté de Dieu. Il reste encore quelques hautes figures, en ce remarquable IVe siècle, que j'ai pour une bonne partie découvert grâce à Radio Liberté. Encore bonne année et à bientôt, j'espère.